Ah bah, c'est bien.
Alors merci Daniel, qui sans elle, c'est difficile de continuer à
sourire.
Les activités, puisque le côté inscription, gestion, c'est essentiel. Ouais. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait vu Desiderio, Monde sous Desiderio, c'est le drôle de binôme de deux artistes qui se sont mis ensemble. C'est une très rare histoire de collaboration entre artistes. Hein. Et alors, juste un petit parallèle, l'idée de collaboration entre artistes, c'est intéressant aussi, ça veut dire qu'ils mettent de côté aussi, on va dire, leur singularité, et comme s'ils avaient aussi une sorte de recherche à faire. Donc, quand, par exemple, Picasso et Braque travaillent ensemble pendant un certain moment, c'est comme, alors que ce sont deux fortes personnalités, c'est comme si tout d'un coup ils mettaient de côté leur spécificité pour, comme s'il y avait une sorte d'objectivité, comme si c'était vraiment des chercheurs qui étaient en train de trouver quelque chose, puisqu'ils mettent de côté vraiment, on va dire, l'inspiration personnelle, le point de vue singulier sur le monde. Donc ils se renforcent. Donc c'est assez. Alors, en même temps, dans la période baroque, bizarrement, l'affirmation du style personnel en peinture, c'est quelque chose qui va un peu disparaître, par exemple, dans les plafonds peints. On va voir les plafonds peints aujourd'hui, on va voir un petit peu ça. Dans les plafonds peints, c'est assez difficile de trouver aussi un style personnel. Ils vont signer, mais les plafonds peints baroques se ressemblent quand même assez souvent. Hein. Donc, ça, c'était juste une petite transition. Alors, aujourd'hui, on va continuer dans le baroque, mais cette fois-ci en architecture. Et si vous allez à Rome, un jour, prochain ou lointain, il y a plusieurs petits. C'est intéressant de faire des petites balades thématiques, par exemple une balade Caravage, ou une balade des façades baroques, par exemple, des petites façades baroques, etc. Et surtout que c'est dans un. Parce que c'est... Il y a tellement de choses que tout voir, c'est impossible. Donc c'est pas mal. Et là, je voulais m'arrêter sur un peintre qui est un peu moins connu que Bernin, bien qu'il soit connu, c'est Borromini. Un Borromini qui est donc un architecte baroque, et je voulais vous parler de cette façade un peu particulière. Alors attention, ça va. Ok, je vais un peu zoomer. C'est Saint-André des Quatre Fontaines. Alors j'ai d'autres documents. Saint-André des Quatre Fontaines de Borromini. Alors, globalement, ce qu'on appelle l'âge baroque, ça couvre, et maintenant c'est devenu un nom commun qui englobe beaucoup de choses, même un peu trop. Parfois on parle même du clair-obscur de la Tour ou de Rembrandt comme baroque, hein, et on parle de Caravage comme baroque, on parle aussi des plafonds peints comme baroque. Alors que ça semble, on peut dire, opposé. Alors en peinture, il y a une question qu'on avait abordée déjà qui peut être commune, et on va voir en architecture aussi, c'est le rapport à l'espace. Que ça soit un espace traité par la pénombre, ça reste quand même un espace infini, parce qu'il n'est pas défini, justement. Dont l'ombre de Caravage, ou l'ombre de Delatour, ou l'ombre de Rembrandt, c'est quelque chose qui n'est pas défini, donc on est comme ça dans un espace très ouvert. Il peut être menaçant ou positif, il est ouvert. Dans le plafond peint, c'est aussi un espace cette fois-ci infini qu'il s'agit au contraire d'occuper par le mouvement. D'accord ? Alors, en architecture, ça va se traduire aussi par la question de l'espace. Comment occuper plus d'espace? Comment et justement traiter la question de l'espace? Alors, pourquoi est-ce que la question de l'espace est importante au XVIIe siècle? Parce que, j'avais abordé plusieurs fois la question, on se pose des questions au XVIIe siècle, au niveau représentation du monde, du cosmos, de l'univers, sur la nature de l'espace. Est-ce qu'il est fini ou infini? Est-ce qu'il est centré ou décentré, hein? Par exemple, Giordano Bruno, vous avez entendu parler, qui se fait brûler en 1600 sur la place Santa Maria dei Fiori à Rome, hein, pour avoir, au bout d'un procès de 5-6 ans, c'était un chercheur ecclésiastique, astronome très savant, mais qui, un peu de la faute de Galilée avec les lunettes, voilà, en regardant les étoiles, il a fini par dire « mais il y en a qui sont plus loin. Ils sont plus loin jusqu'où ?» Et s'il y en a que je ne voyais pas à l'œil nu et que je vois ici, si ma lunette était plus puissante, il y en a combien et jusqu'où? Et donc, il pousse au sens strict les frontières de l'univers. Et en train de se dire, mais peut-être que l'espace est infini. Et la tradition biblique et religieuse considère que c'est blasphématoire de considérer un univers qui aurait été infini, créé par Dieu. Dieu aurait fait quelque chose d'imparfait. Mais d'autres vont dire, mais non, infini, c'est parce qu'on n'est pas capable de comprendre l'infini créé par Dieu. Donc vous voyez, en fait, le même... argument peut se renverser. Donc c'est juste des querelles théologiques pures, mais qu'on connaît hein, depuis les querelles byzantines jusqu'à sur la Sainte Trinité, etc. C'est qu'une même chose peut être différente. Mais toujours est-il que la réalité physique, hein, même scientifique, la compréhension de l'espace, elle est en jeu. Et quand l'espace était fini, c'était l'ordre qui permettait d'occuper cet espace. Les sphères concentriques, comme on l'a vu, l'ordre de Ptolémée, donc l'espace était centré, homogène, gradué. Si l'espace devient infini et ouvert, ben comment est-ce qu'on peut l'occuper? Et c'est ça l'idée de la dilatation. L'idée de la dilatation, se dilater dans l'espace, parce que si l'espace est infini et qu'il est positif, eh bien, c'est Dieu. Donc Dieu est très grand, mais pour être en osmose avec Dieu, parce que c'est un peu ça, il s'agit de partager l'espace. Si l'espace, c'est Dieu, eh bien, il faut se déployer, se disperser en Dieu. Hein? Alors, pour les élèves, il y a un truc très badjouti, ça marche très bien. C'est comme un cachet d'espirine effervescent dans l'eau. J'en utilise pas mal. au début, vous le mettez, il est dissocié, et puis plus il se fond, plus il s'élève, plus il gigote, ça, jusqu'à disperser complètement. Mais en fait, l'aspiration, on peut dire, absolue du baroque, ce serait d'être un cachet d'aspirine effervescent et de réussir à se disperser totalement dans l'espace. Donc de se dissocier pour le partager, parce que tant que le cachet d'aspirine est au fond, il n'a rien partagé, mais à la fin, il a tout partagé. Donc en gros, alors l'art baroque, ce qu'on voit dans les plafonds peints, c'est du cachet d'aspirine en effervescence. Et en ébullition. Et alors, évidemment, on ne peut pas. Après, il y a un paradoxe, parce que si on monte tout en. Il ne reste plus rien une fois qu'on est dispersé. Alors, juste un truc, je fais des petits. C'est d'ailleurs la valeur de la paix, donc quand je fais de la tour. De la tour, en gros, il dit, mais c'est tellement infini qu'il n'y a plus rien à montrer. Donc le noir, c'est un néant positif, c'est Dieu, mais il n'y a rien à montrer, il n'y a qu'à attendre de se fondre dans le noir, dans le néant. Par contre, si on veut essayer de montrer quelque chose de plus positif, eh bien, justement, il y a l'agitation baroque, hein, l'agitation, le mouvement, le drapé. Alors ça, c'est pour la peinture. En architecture, ben, l'idée, ça va être aussi celle-ci, de briser un petit peu les carcans, et vous voyez avec cette... je vais quand même vous présenter une autre, celle-ci est immaculée. Alors je vais vous montrer où elle est, etc. Alors elle est petite. Alors pourquoi c'est intéressant? Alors voilà, à côté de la... on la voit un peu de façade. Alors l'église, en fait, elle est surtout traitée justement par la façade. On va revenir. Et puis vous avez des clochetons et vous avez une partie centrale, c'est une église centrée, avec un clocheton et avec la lumière, mais on verra plus tard. Alors voilà une gravure de l'époque, avec une perspective qui est différente, parce que la place a changé, donc Saint-Charles les quatre fontaines, Saint-André les quatre fontaines, et on voit bien la façade ici traitée. Si vous regardez la façade, effectivement, il y a des mouvements, elle s'agite, hein, il y a une ondulation. Alors la courbe, je veux dire, la courbe sera vraiment quelque chose qui sera un signe baroque aussi, et ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, je vais continuer à vous la présenter un petit peu, j'ai oublié de les agrandir. Alors, quand vous voyez ici, effectivement, la courbe ici est encore plus notable. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui, comparé à Palladio, comparé à Alberti, qui est au contraire tout en ordre, il s'agissait de ranger les choses avec des cercles, des triangles, des carrés, des références géométriques régulières. Là, on est dans quelque chose qui, à chaque fois, est en train, je crois qu'en musique, on appelle ça le contrapposto, hein, le contrepoint. C'est effectivement un truc clac-clac, comme s'il y avait une sorte de réponse très dynamique, hein, qui fait que les choses semblent se briser, se casser. Comme par exemple ces corniches qui s'ouvrent pour laisser passer la place à un médaillon, hein, les formes en creux, les formes bombées, et puis les colonnes qui semblent ne servir à rien, les rythmes qui changent, cercles, triangles, etc. On va voir, c'est de décrochement permanent, de dilatation de la surface, comme si la surface, Alberti, c'était presque des surfaces planes, avec au contraire des formes géométriques pures. Là, vous avez quelque chose qui se gonfle en volume et commence aussi à s'agiter comme un voile aussi. Hein, la tradition baroque, par exemple, du drapé, c'est justement quelque chose qui va occuper plus d'espace. Une façade, normalement, c'est une façade, c'est plat. Donc, une des cultures baroques, ça va être justement de gonfler les façades. Si on les gonfle trop, ça peut être lourd. Hein, et c'est pour ça que je vais choisir de montrer juste des petites églises, parce que souvent, elles sont plus modestes et elles conservent peut-être mieux l'esprit pur baroque. Sinon, quand on dit baroque, c'est la surcharge. Et la surcharge qui devient encombrée, donc il n'y a plus le vide, il n'y a plus l'espace. Hein, quand une sorte de délire qui devient surchargé. C'est ce qui donnera aussi plus tard le rococo, qui est une sorte de suite du baroque. Mmh. C'est quelque chose qui est une sorte d'engorgement. Les petites façades de Borromini, de Vernin, ici, et de Cortone, on verra, sont des façades, justement, où on est encore dans l'ébauche d'un vocabulaire baroque qui se cherche. Alors, la façade, justement, c'est le plus emblématique, parce qu'un volume, il occupe forcément l'espace. Mais une façade, normalement, n'occupe pas l'espace. C'est justement un plan. C'est en ce sens que toutes les façades baroques sont subtiles. Alors, ah, mais alors là, j'ai un peu un problème avec ce nouveau logiciel. Alors, la voilà encore. Alors, oui, cette idée aussi de dépasser partout, c'est-à-dire dépasser en volume, hein, en surface qui ondule, des choses qui semblent inachevées, justement, comme par exemple un tympan ou un médaillon qui sont dépassés dans ces verrous. Là, des corniches en forme concave qui semblent le début de quelque chose qui se continuerait, hein, comme si on disait des fragments, quelque chose qui peut se déployer. Le mouvement, c'est aussi essentiel que le mouvement suggère l'espace. Si, pour qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de l'espace vide. Sinon, on ne peut pas bouger. Donc, qui dit mouvement dit que tout d'un coup, ça, c'est comme si on suggérait un espace plus vaste. Au lieu d'être enfermé dans un espace défini, on suggère un espace plus grand. Au sens strict, une animation. Et ça, c'est vraiment remarquable. Alors, quelque chose aussi qui est typique du baroque, et on le verra, c'est quand même l'idée du spectacle, hein, l'idée du ravissement, l'idée d'une séduction. Ravissement au sens strict, c'est le rapt, il faut être enlevé, il faut être emporté. Hein, le principe du baroque, c'est de fonctionner non plus sur la raison, d'ailleurs, c'est totalement déraisonnable, il y a plein de choses qui ne servent à rien ici, on n'est plus du tout dans une logique architectonique, on va dire. Hein, il y a des corniches, des décorations, des balustrades qui n'ont aucune fonction. Si ce n'est celle d'emporter une sorte de fascination par le regard. Et l'emportement, c'est aussi, ça fait partie de l'émotion baroque. Les pères de l'Église, les responsables catholiques, ont théorisé l'idée que pour lutter contre le protestantisme austère et iconoclaste, et presque trop rationnel, il fallait au contraire jouer sur émotion, sentiment, enthousiasme, amour et irrationalité. C'est-à-dire que Dieu, on ne cherche plus à comprendre, au contraire, on cherche à se fondre dedans et on abdique toute raison. Ce qui est l'opposé de la Renaissance. Hein, vous avez des artistes de période maniériste qui disaient même quel besoin avait cet auteur, Léonard de Vinci, de prétendre que les mathématiques ou les proportions de la nature pouvaient être intéressantes pour comprendre Dieu. En gros, Vinci est quand même rejeté. Par exemple, et les dames de la Renaissance sont rejetées par les Baroques parce qu'ils pensent que tout ce qui est mathématiques, rationalité, humanisme, rapproche de Dieu. Pour les Baroques, au contraire, il faut être dans la déraison, dans la déformation, dans l'excès, dans l'émotion. Hein. Et le spectacle, c'est justement quelque chose de purement visuel qui vous emporte. Donc l'idée d'être ravi au sens d'un rapt, hein, c'est l'idée aussi d'être emporté, d'abandonner toute puissance. Et la façade aussi a quelque chose de séduisant. Il faut séduire. Donc, la façade attire. Alors, ça, c'est ce qu'on voit de l'église. Hein. Donc, c'est le carrefour qui est en face des quatre fontaines. Alors, il y a les fontaines, effectivement. Hein. Là, on ne voit pas la quatrième. Il y a les fontaines. Alors, ça aussi, c'est important. C'est que les baroques et Rome, ils ont l'espace pour cela. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose par Venise ou ailleurs, c'est que Rome était presque vide au 15e, 16e, 17e siècle. Je ne sais pas si vous avez déjà donné ce chiffre assez hallucinant, c'est que, enfin vide, comparé à ce que ça a été dans l'Antiquité. La Rome antique, on peut considérer qu'il y avait à peu près 1 500 000 habitants, avec 900 établissements thermaux au moins. Le mètre cube d'eau par habitant dans la Rome antique est plus important que le cubage actuel. Donc, si vous voulez, la technique et l'urbanisme de la Rome antique est assez au 16e, 17e, 18e, 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 Rome atteint à peine 100 000 habitants. À peine 100 000 habitants, et c'est recouvert souvent de champs, de prairies. Quand les Romains antiques y vont, vous avez des biquettes qui sont un peu partout, qui pèsent. Alors, vous avez des palais, vous avez des églises, mais si vous voulez, vous avez des habitations assez pauvres. Par contre, ça donne, les palais et les églises sont scénarisés, presque une sorte de scénographie, parce que c'est presque voilà, une sorte de mise en scène. Et dans l'art baroque, vous avez justement les perspectives, les places, Oui, très important. Il y a de la place, hein, alors que, on va le voir, à Venise, obligé de se cacher, hein, se bloquer. Alors, il y a le recul de l'eau, etc. Mais il y a d'autres. Par exemple, Paris, vous n'avez pas du tout le. C'est un tissu urbain beaucoup plus serré. À Rome, il y a un dispositif de présentation des architectures qui est assez remarquable. Alors, voilà encore la façade. Alors, ce qu'on voit surtout, c'est la façade, parce que le volume lui-même, au bout d'un moment, le volume, il ne peut pas faire semblant de se déployer dans l'espace. Il est vraiment dans un espace défini. La façade, c'est une espèce de jeu avec le plan, hein, le plan qui se dilate. Alors, à l'intérieur aussi, ce qui va être remarquable, et que l'on voit aussi dans l'œil qui est ici, c'est la forme elliptique. Alors, on n'est plus dans un cercle, on est dans une ellipse. Et ça, c'est aussi référence à la cosmologie. La cosmologie, puisque il y a un débat esthétique sur l'ellipse ou le cercle. Kepler, qui est donc un grand astronome, avait commencé à établir les lois de circulation et d'orbite des planètes, et il avait déduit que les circulations des planètes étaient en fait pas circulaires, mais elliptiques. C'était des ellipses, et ça a choqué pas mal de gens, même Galilée, ou je ne sais plus qui encore d'autres, qui disent c'est moins beau l'ellipse que le cercle, donc ça va être faux. Puisque le cercle est parfait, il a un centre unique, avec l'ellipse elle a deux foyers, voire trois, etc. Donc l'ellipse était considérée comme moins belle dans un premier temps, qu'un cercle qui était au contraire achevé, qui était défini, qui était en plus assimilable à un monde absolument homogène. L'ellipse, par contre, pour certains baroques, elle est intéressante parce qu'elle est plus dynamique, justement. Elle est plus dynamique parce qu'elle a deux foyers, elle évoque accélération et ralentissement, et un mouvement qui est irrégulier, inégal. Donc l'ellipse va être aussi privilégiée dans ces artistes baroques qui vont accepter cette idée du décentrement au sens strict. Un monde dans l'ellipse, vous avez deux foyers, hein, et tout d'un coup dans l'espace aussi, avec deux centres, terre, héliocentrique, géocentrique, vous avez cette idée-là. Dans l'idée d'un monde ouvert, vous avez aussi l'idée que on n'est plus dans le concentrique, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va voir dans les voûtes, hein, dans les voûtes et les plafonds de Saint-André des Quatre Fontaines, et d'ailleurs que l'on voit aussi, que l'on devine déjà dans la façade. Alors, Saint-André... Alors voilà. Pourquoi il dit Saint-André? Parfois, il dit Saint-Charles et Saint-André. Alors là, tout à coup... Oui, Saint-André, mais là, c'est marqué Saint-Carlo. Bon, moi, j'ai une erreur. Ah ben voilà, la quatrième fontaine est là. Alors, ce qui est quand même assez drôle, c'est que l'Église, elle se met quand même, ou alors elle s'est mise ensuite dans un tissu urbain, parce qu'après, Rome s'est peuplée, donc certaines ont été un peu gâchées par l'environnement et les bâtiments adjacents, hein, comme ici. Là. Par contre, ce que l'on voit ici, c'est ce qui compte le plus, c'est quand même la façade. Dans les églises baroques, la plupart du temps, c'est la façade qui est effectivement... De toute façon, il n'y a qu'une entrée possible. Hein, on ne va pas contourner. C'est pas du tout comme une cathédrale gothique où on va prendre dans son ensemble, ou une église de la Renaissance aussi qu'on prend comme un tout. Là, il y a vraiment aussi l'idée d'être amené dans une voie unique. Hein. On est appelé par une façade, par une entrée principale, et on va emporter ensuite à l'intérieur. Donc voilà.
Le reste, ce qui n'est pas la façade, est-ce qu'il a été investi beaucoup ou moins?
Alors, moins. Ici, par exemple, alors là, il y a des bâtiments qui sont d'usage, donc c'est des bâtiments d'habitation qu'on a dû être fait après. Là, c'est quelque chose qui s'est niché vraisemblablement par la suite, parce que quand on regarde la gravure ancienne, ça n'était pas comme ça, hein, ou c'était beaucoup plus discret. Donc vous avez aussi... alors ça, c'est un peu bizarre aussi en Rome, hein, c'est que vous avez des essais de scénographie, puis vous avez aussi du réemploi et du parasitage de bâtiments qui est assez parfois bizarre. Hein. Donc,
par les constructions annexes,
oui,
parasitage.
Oui, oui. Mmh. Ouais, ouais.
Ah oui, d'accord.
Donc ils viennent parasiter parfois le bâtiment, mais tant que la façade reste, à la limite. Et ça, alors, c'est peut-être pas très sympa pour les Italiens, mais le côté waouh, chaud, spectaculaire. D'ailleurs, oui. Regardez, en France, il n'y a quasiment pas d'art baroque. Il y a une église à Paris, c'est Val de Grâce, mais c'est quasiment la seule. Et parce que ça correspond aussi à une façon d'être. La France, c'est l'âge classique, hein, l'ordre, la raison, la rationalité, dialogue, etc. On ne va pas se laisser aller à ces espèces d'exagérations ou de tentatives comme ça, très libres, qu'on va trouver dans les façades baroques. Alors,
mais on dirait que c'est plaqué dessus, c'est ça.
Alors tout à fait, c'est mais ça qui est intéressant, c'est le côté façade, c'est le côté. Bon, alors
c'est
après.
C'est pas la même pierre.
Alors, c'est parce qu'elle a été destructible. Oui, oui, oui. Mais effectivement, si, c'est la même pierre par rapport aux autres, mais là, effectivement, elle a été nourrie, on peut espérer qu'elle sera nettoyée par la suite. Ils n'ont pas eu de malheureux tout de suite, mais ça, c'est la pierre, c'est vrai que ça se noircit très très vite. Et donc là, je pense que c'est surtout un. Mais à la limite, pour les églises baroques, c'est pas très gênant, puisque le reste n'est pas conçu pour être vraiment vu. Ce qui compte par contre, c'est le rapport façade-intérieur. Et là, ça fonctionne bien. On voit bien le soin accordé à la dynamique et à la complexité, parce que c'est très complexe et c'est très savant, ce jeu sur les ellipses qui fait qu'à l'intérieur aussi, on a un point de vue dynamique. On est amené à bouger soi-même, à tourner. Il y a une sorte d'emportement pour essayer de bien comprendre ce dont quoi nous sommes témoins. Donc ça, c'est des petites photos. Alors voilà, une photo qui est un peu de meilleure qualité. Alors là aussi, ce qui est assez typique du baroque, parce que c'est pas grand, ce sont des petites chapelles. Et là aussi, encore plus intéressant, je trouve, des petites chapelles baroques, ces petites églises, hein, vous avez vu, elle n'est pas très grande, c'est justement donner l'impression quand même d'une sorte de déploiement dans quelque chose qui est petit. Comment suggérer quelque chose de vaste, parce que c'est un peu ça, la question baroque, c'est conquérir un espace vaste et ouvert, alors qu'on est petit. Quand vous avez Saint-Pierre de Rome, quand vous avez ça, on est forcément dans la quantité. Mais comment... Alors par exemple, l'ellipse fonctionne bien, parce que justement, il y a le côté dynamique. Les décrochements, les différents niveaux, hein, qui fait qu'on passe d'un étage à l'autre avec à chaque fois des sortes de sautes. Hein, la corniche, vous avez ici des sortes d'abside en cul-de-four en demi-cercle, puis vous avez une première ellipse, puis ensuite vous avez un clocheton avec des lumières aussi qui arrivent de différents endroits. Donc on est aussi perturbé parce qu'on ne comprend pas tout de suite effectivement comment ça fonctionne. On a l'impression aussi que l'espèce de coupole flotte totalement, et puis ce qui est corrélé avec les plafonds peints, c'est que la voûte est particulièrement claire. C'est en levant les yeux qu'on va surtout avoir la lumière. Parce que la lumière, elle est inaccessible aussi, elle est en l'air. L'art roman, la lumière vient vers vous, elle va sculpter, on est proche. L'art gothique aussi, il y a un dialogue très clair. Là, vous avez quelque chose qui vous emporte, et presque toujours, vous avez la lanterne, on appelle la lanterne, qui aura cette espèce de luminosité vers le haut. Alors, juste un truc, quand même, c'est qu'on est à Rome, il y avait un exemple qui est sublime, c'est le Panthéon, le seul bâtiment, pas celui... qui va être à l'honneur bientôt ici, mais le Panthéon de Rome qui a, vous savez, un éclairage par zénithal, c'est un grand cercle au plafond qui est ouvert, la coupole, et toute la lumière vient uniquement du dessus. Et c'est le seul bâtiment romain qui soit absolument entier encore à Rome. Tous les artistes et architectes connaissaient le Panthéon, puisqu'effectivement c'était un modèle de coupole, y compris d'éclairage et de lumière assez prodigieux. Donc cette idée d'un éclairage zénithal, en plus, ça se prête assez bien quand même avec.
C'était vous, parce que j'avais cru comprendre qu'ils ne savaient pas fermer le.
À Rome ?
Oui.
Ah,
j'avais pas fermé la voûte.
Ah bon, j'avais jamais.
J'avais vu ça
parce que. Parce que les Romains étaient des champions de la voûte, donc.
Oui, j'ai vu ça moi aussi, oui. Ah. Oui. Ils ne savaient pas fermer parce qu'ils ne savaient pas fermer sans que ça s'écroule.
Tout,
ouais. Ouais, parce que c'était trop vaste.
Oui, il y a toujours des questions.
Le trou est énorme. Ouais.
Mais sinon, je ne sais pas comment il l'aurait éclairé. Parce qu'on...
Ah oui.
Donc,
c'est pas voulu, quoi.
Et après, ils ont pu conclure avec des matériaux différents.
Je crois que c'était passé sur Arte, ça. Il me semble d'avoir vu ça dans une émission.
Ils auraient pu travailler avec les Byzantins.
Oui, après, c'est sur les copies, là. Oui. Ah ben, Sainte-Sophie, c'est un bâtiment romain aussi. C'est bon que c'est encore. C'est encore la technique, c'est le dernier grand bâtiment de l'Empire romain, en fait, qui soit encore. Mais là, je parlais de ceux qui étaient à Rome même. Par contre, j'avais jamais entendu parler de cette histoire. En tout cas, ça a inspiré, mais ils n'ont jamais bouché. Alors, voilà des décompositions de la succès des études. Mais cette idée d'éclatement aussi, on voit bien, c'est que l'espace ne semble pas, que ce soit les murs, où là aussi vous avez une sorte de décrochement en avant et puis des décrochements en arrière, des choses qui sont en saillie, des choses qui sont en creux. Vous avez, hein, comme par exemple ici, les sortes de sections qui sont rectilignes et d'autres qui sont courbes. Donc là aussi, vous avez des jeux entre concave, convexe, courbe, droite, en creux, en plein, etc., en hauteur, en décaché. Donc à chaque fois, vous avez cette idée d'animation et de modulation. Et voilà encore d'autres. Alors, j'en ai mis plusieurs parce que pour l'architecture, comme c'est très difficile de montrer une architecture, c'est mieux de multiplier les regards. Là, on s'approche un peu plus, hein, et on comprend bien un petit peu les passages. Hein, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, puis à la fin, on n'identifie plus les choses aussi. Ça, c'est quelque chose qui est baroque aussi, c'est de se perdre, donc ne pas identifier, hein, de pouvoir justement ne pas nommer, ne pas se repérer. Perdre ses repères, c'est typique de l'art baroque, puisque l'idée c'est de se perdre, d'être ravi, donc il faut perdre ses repères. Donc ne pas très bien savoir devant quoi on est, alors ce qu'on verra aussi parfois, le trompe-l'œil, etc. Alors, on continue là, bon ça c'est pas très bien, voilà les petits schémas, ça encore, alors, en se mettant de côté, regardez, comme c'est une photo qui réussit, elle a pour essayer de révéler l'espèce de petite... fenêtre latérale qui, sinon d'en bas, ne se repère à peine. Hein, donc, ce qui est que, je vous disais, là, on cache parfois certaines sources de lumière qui sont presque comme des feux de la rampe un petit peu cachés, mais qui rendent encore plus l'architecture irréelle et incompréhensible. Avec, alors, il y a une dimension, évidemment, dans les caissons en croix et en octogone, etc.
C'est des vrais caissons ou c'est des trompe-l'œil? On ne sait pas trop.
Et là, je ne sais pas, effectivement. À gauche, ce sont, je pense, une vraie boutade de son, classique, etc. Là, je ne sais pas. Mais en tout cas, en se mettant de côté, il y a une sorte de révélation.
Ça fait des vrais, parce que regardez les ombres.
Ça fait des ombres,
ouais. Ah oui, je pensais des vrais. Oui, c'est pas un trompe-l'œil. Moi, je pensais qu'ils avaient une vraie fonction architectonique, c'est-à-dire est-ce que c'était le principe ou une mort décorative. Ça, je ne sais pas. Ah oui, par contre, c'est pas propre. Alors ces petites chapelles et ces petites églises, ça c'est la crypte, et là on voit aussi le choix très clair hein, qui est fait par l'architecte, on voit bien l'importance donnée aussi à la décoration, qui n'est pas forcément utile, mais qui permet justement de se perdre. Alors, on va voir d'autres bâtiments de Borovnie, et d'autres exemples de plans. D'église baroque, bon, ça je passe, c'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà. Alors, une autre. J'aurais dû les agrandir, mais bon, mais c'est bon. Une autre église de Borovnie qui est très très belle et qui est aussi un petit peu cachée dans un tissu urbain, celle-ci, mais il a réussi à la mettre en scène de façon très subtile, c'est Saint-Yves de la Sapience. Saint-Yves de la Sapience. Alors, Saint-Yves de la Sapience, là vous voyez tourelle, enfin, sur deux coupoles, la lanterne, et vous voyez qu'elle est en fait, l'entrée n'est pas sur la rue ici, l'entrée en face. L'entrée est en face, c'est-à-dire devant l'espèce de cou ou cortile hein, et qui est devant. Alors on va le voir un peu plus près. Alors c'est petit, vous avez vu, hein, c'est pas du tout monumental, de l'extérieur c'est discret. À la limite, quand vous êtes dans la rue, vous ne voyez même pas la coupole, ce qui disparaît avec les principes de perspective. Hein. Et Saint-Yves de la Sapience, c'est vraiment un petit bijou. Ah. Alors voilà le plan, justement. Au lieu d'occuper tout l'espace, il met en scène l'entrée étant là, une sorte de cour qui permet d'avoir une perspective pour presque scénographier la petite chapelle qui est au bout. Hein. Et les côtés ont que peu d'importance par rapport à la chapelle et l'église. Alors là, on n'est pas tout à fait dans l'église, mais il y a un côté dynamique dans. Le fait de découvrir l'église, hein, de s'en approcher, effectivement, de valoriser. Alors là, vous avez vu aussi, on voit dans le plan une façade en creux, une sorte d'approche en creux, et au contraire, ici, des choses qui sont, au contraire, presque en trèfle bombé. Alors voilà ce que ça donne quand vous rentrez. Hein, il y a un effet de surprise, parce que cette petite chapelle à plan centré, qu'on ne voyait pas clairement de l'extérieur, dès que vous passez. Le cloître, la porte, un coup, là, vous avez une perspective magnifique qui aspire, hein, qui invite à penser, et puis, un coup, une élévation vers à la chapelle. Et déjà ici, on voit qu'il y a plusieurs lobes, hein, une sorte de dynamique, parce qu'au lieu d'avoir un seul tambour, vous avez des sortes de petites dioles rayonnantes. Et puis vous verrez aussi que le clocheton est en spirale. Et la façade elle-même est très discrète, mais en creux. Mais comme on voit vraiment la partie haute, ça donne envie de rentrer. Donc il y a une invention. Alors, de ce point de vue-là, Borromini est un véritable, on va dire, plasticien, c'est qu'il joue vraiment avec les formes pures. Et là, on comprend bien ce côté aussi convexe, concave. Hein, tac, tac, des alternances. Hein. Et puis, on voit bien aussi la dynamique, avec quelque chose qui est très connu de ce point de vue-là, on voit la lanterne. Hein, on voit donc les éclairages zénithaux qui permettent un éclairage par le haut. Et puis aussi la spirale. La spirale qui culmine sur le petit clocheton. La spirale, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de l'ellipse, hein, puisque c'est l'idée aussi d'une forme circulaire mais dynamique. Hein. Donc c'est une forme circulaire dynamique et spirale et torsade, on en verra pas mal dans les arts baroques. C'est toujours aussi comment ouvrir, hein, introduire le mouvement dans une forme limitée. Alors voilà d'autres photos, hein, là on voit un peu plus et on se rapproche. Avec alors là aussi, quelque chose qui est très clair, c'est le dialogue entre la forme basse et la forme haute. Celle-ci est toute en concave, et l'autre est toute en forme concave. Donc c'est vraiment aussi du contrepoint très très clair. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est vraiment comme une sculpture, en fait. Ce sont des petites architectures, des petits bijoux, quasiment de sculpture. Voilà, je passe un peu. Ça, c'est vu de l'autre côté. Hein, c'est quand on se retourne, et là vous voyez bien aussi comment le même espace peut être perçu différemment, c'est quelque chose d'extrêmement séduisant, une espèce de petit bijou dans lequel on est invité à aller, hein, et donc on tourne le dos à quelque chose de beaucoup plus banal.
Il y a la Chilem de l'autre côté.
Comment ?
Il y a la Chilem de l'autre côté.
Ah, oui, c'est pas
alors,
pareil,
oui, je ne l'ai plus.
Ils sont obligés pour les côtés sociaux.
Ça, c'est comme à Marseille, hein. Donc, alors voilà, d'en face, là, on est au même niveau, au même plan, et on voit bien ce jeu de dialogue, de dynamique, et puis aussi d'élévation progressive, donc Saint-Yves de la Sapience. Là, c'est une autre photo. Alors, évidemment, comme ce sont des architectures qui jouent avec aussi le déplacement, puisqu'il y a le déplacement intérieur, il y a la scène, etc., il y a l'approche, c'est intéressant aussi de jouer sur les points de vue, plongée, contre-plongée. Ça fonctionne beaucoup comme ça. Surtout que la contre-plongée va amplifier, y compris les courbes. Quand on voyait tout à l'heure, on ne se rendait pas à quel point cette façade était concave. Et comment est-ce que, au contraire, ici, la forme convexe, probablement, était remarquable. Encore, dilatation de l'espace. Hein, tchouk-tchouk. Ça, c'est typique. Alors, où est ma flèche. Alors, on s'approche un petit peu, justement, de la tour centrale. Bon, ça, c'est un peu la même chose. Alors voilà, le lanternon, hein, ou la lanterne. On voit bien ce que je disais tout à l'heure, c'est caché un petit peu un éclairage. Et quand vous êtes dedans, effectivement, vous avez une source de lumière importante qui apparaît par le dessus, mais qui sera très peu décelable. Et puis de l'extérieur, évidemment, l'escalier en spirale qui amène, effectivement, alors là, on est dans la symbolique classique de la croix, le ciel, etc. Mais on est effectivement dans toujours les contrepoints, y compris dans les contreforts ici qui sont en courbe, hein, inversés du toit. Donc en fait, le vocabulaire baroque s'invente très clairement ici. Par Borromini, c'est vraiment simple. Hein, en fait, on peut faire du baroque assez facilement. Cette idée d'alternance, cette idée de volume, de décrochement et puis de contrepoint dans l'espace plan et dans la hauteur qui donne une dynamique. Et alors, les exercices sont plus... Bon, on l'a déjà vu, ça aussi. Alors, à l'intérieur, on va retrouver quelque chose qui est assez classique de Borromini. Hein. Les structures, justement, à peu près, très proches de Saint-André-des-Quatre-Fontaines, avec à peu près le même principe d'éclairage par le haut. Et puis, l'impression aussi d'ampleur. L'impression d'ampleur, alors que c'est assez petit. Le plan n'est pas elliptique, il est centré, mais à la différence de Saint-André des Quatre Fontaines. Alors voilà un croquis assez complexe de différents étages. Alors, à la différence souvent des églises de la Renaissance, aux églises gothiques ou des églises romanes, la liaison entre les différents étages n'est pas du tout logique, hein, puisque il y a même une part de gratuité dans la construction des volumes. Bon, le document n'est pas terrible, mais alors que dans tout ce qui est roman, gothique ou même Renaissance, les bâtiments sont des ensembles parfaitement cohérents d'un bout à l'autre. Là, comme il s'agit au contraire d'aller vers une sorte de déroutement du spectateur, on n'est pas du tout dans la révélation. Bon, ça, je passe. Alors, l'intérêt de Borromini, c'est qu'on va le voir aussi dans ce vocabulaire assez logique, va devenir une sorte de marque du baroque dans Rome, hein, qui permet d'animer des façades variées, comme par exemple ici un oratoire, donc c'est plus du tout une chapelle, mais on voit une façade effectivement, qui tout d'un coup, en étant légèrement concave, signe un petit peu son époque et une dimension dynamique. On voit aussi les inversions ici avec un tympan qui est en partie court et en partie triangulaire. Ce n'est pas d'ailleurs le plus réussi, c'est pas terrible. Hein. Et puis vous avez donc ici aussi un premier tympan par exemple, qui est triangulaire et un autre qui va être ici court. Donc les alternances, hein, ça va être systématique, y compris là, des fenêtres qui sont avec des arcs plein cintre et ici des fenêtres avec notre entrée qui va être rectangulaire. L'idée c'est de casser les rythmes. Hein, ça c'est classique. Enfin, classique du baroque, si on peut dire. Alors, on va continuer les petites balades Borromini. Alors, voilà d'un peu plus près le même oratoire des Philippins, ou des. Je sais pas quoi. De plus près, on se rend un peu plus compte avec une lumière rasante des décrochements, ce qu'on appelle les décrochements volumes. Et surtout, alors, la corniche joue un grand rôle, parce que la corniche, c'est vraiment quelque chose ici qui rythme à la fois les travées horizontales, verticales, avec les pilastres et puis les bandeaux horizontaux. Hein, et sur lesquels on peut jouer effectivement lumière et on peut lui donner des formes, c'est plus souple, surtout que ça sert à rien, hein, parce que les pièces à l'intérieur, elles vont être relativement sobres, mais c'est en fait c'est un travail de décoration, hein, il n'y a pas du tout de logique architectonique. Et là encore, alors la contre-plongée, souvent, est peut-être une des meilleures manières de révéler, c'est justement dilatation de la surface. Alors, ça c'était sans doute un projet. Alors pourtant, qu'est-ce qui se passe? C'est le même? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, non, c'était le tel qu'il devait être le projet, mais il a visiblement été autrement, qui était beaucoup plus intéressant, puisqu'ici, effectivement, on voit que la façade était presque considérée comme un voile, hein, comme une sorte de pan de mur qui se détachait, qui se décrochait. Alors la métaphore aussi du voile, du tissu, c'est quelque chose qui en architecture est assez rare. Hein, l'idée, c'est tout bête, mais c'est Le Corbusier qui va reprendre l'idée d'une sorte de façade courbe, comme si c'était un voile de pierre. Alors là, dans la chapelle de Notre-Dame de Ronchamp, Le Corbusier en béton va faire une sorte de voile courbe comme ça. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une architecture qui serait purement orthogonale et plane, l'idée qu'on puisse courber et animer des façades de pierre ou des murs comme s'ils étaient animés au sens strict, c'est quelque chose qui est assez rare. On va le trouver maintenant avec des nouveaux matériaux, et ça devient même, avec des nouveaux matériaux c'est en vogue. Quelqu'un comme Franck Guéry, qui a fait la Fondation Vuitton et le musée Bilbao à Guggenheim. Donc c'est des gens qui vont pousser le plus loin possible l'idée de parois comme des voiles. Hein. Mais déjà dans le baroque, il y a cette idée de casser la boîte. Si l'architecture est une boîte, il y a l'idée de casser la boîte.